16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de bonne humeur informative pour vous, d'une compétition sans pitié pour eux. Vous le savez, depuis la rentrée, les journalistes d'Europe 1 s'affrontent chaque après-midi dans l'arène surchauffée du studio Coluche. Au service de votre culture générale, un seul sera élu chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus intrigué. Alors moi, vous connaissez ma douceur, je n'ai pas l'âme d'un coach. Mais heureusement, pour toute la partie motivation, c'est ma collègue Eva Roch qui gère les journalistes.
Qu'est-ce que vous croyez, hein ? C'est comme ça que vous allez gagner ?
Je veux juste participer.
Participer, fils de pute ? Non, non, arrête de rigoler, vous allez tous vous mettre en tenue, on va aller courir.
Bonjour Eva, la forme
bonjour
visiblement.
Mathieu. Oui, en plus j'adore, c'est un extrait du film Le Grand Bain.
Exactement. Ouais. Pour nous accompagner jusqu'à 18h, un invité d'honneur exceptionnel aujourd'hui, puisqu'il est le premier invité à être plus grand que moi. Double champion olympique, double champion du monde, il a mis un terme à sa carrière de nageur en 2016, pile l'année où je me suis mis moi-même à la natation. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? A-t-il pris peur ? Yannick Agnel est notre invité. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Vous êtes un retraité des bassins, mais un retraité hyperactif. On va en parler puisque, alors non seulement vous coachez désormais une équipe de e-sport, et vous avez publié récemment un ouvrage jeunesse qui s'appelle Yann, une vision romancée de votre histoire pour les jeunes. Donc vous ne vous ennuyez pas du tout, tout va bien pour vous ?
Non, ça va, tout va bien.
Alors Yannick, on va parler de votre reconversion et de l'avenir du sport français aussi en général avec l'horizon des JO de 2024. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter nos compétiteurs à nous. À ma gauche, le seul critique littéraire adoubé par Télérama qui cite plus volontiers Sylvester Stallone que Marcel Proust.
It ain't over till it's over. C'est pas fini tant que c'est pas fini.
Bonjour Nicolas Caron.
Bonjour.
Avec quel sujet allez-vous nous épater et bluffer aussi notre invité Yannick Agnel dont le vote comptera triple en fin d'émission.
Je vais vous parler d'un livre qui résume tous les livres.
Ah, c'est très ambitieux de votre part, je vous reconnais bien là. À ses côtés, Yannick, c'est seulement sa deuxième participation dans notre grand tournoi journalistique. La première s'était soldée par ce qu'on appelle dans le jargon technique de la natation un plat. Mais ça ne m'empêche pas de rester confiante et même mutine, voire caustique à l'égard de ses concurrents. Angèle, vous aimez bien Nicolas Caron quand même.
On comprend pas toujours quand il parle.
Bien sûr. Alors, Angèle Châtelier, vous êtes notre expert musique et je crois savoir que Yannick Agnel est féru de dipo et de jeux vidéo. Désireuse de le séduire rapidement et d'avoir un gros retour sur investissement, vous avez choisi un sujet qui combine les deux.
Exactement, c'est-à-dire... on va parler des liens qui unissent les jeux vidéo et la musique.
Voilà pour le programme, l'équipe est sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Quel plaisir d'accueillir un champion, un des plus grands nageurs de l'histoire de la natation française. Yannick Agnel, vous avez été, on le disait, double champion du monde sur 200 mètres nage libre et relais 4x100 à Barcelone. Double champion olympique en 2012 sur les mêmes distances. Quand on a connu de telles émotions, atteint de tels sommets, comment on fait pour ne pas tout trouver fade par la suite ?
Je ne sais pas, je pense qu'il y a des plaisirs simples dans la vie et c'est sur ça qu'il faut se concentrer.
Oui, mais réussir à renouer avec des plaisirs simples quand on a vécu l'adrénaline, j'imagine qu'on a dans une finale olympique, ça paraît difficile.
Bah ouais, en fait, c'est ce que je me suis dit assez rapidement lorsque j'ai mis un terme à ma carrière. Je me suis dit, bon, là, à part faire Thomas Pesquet ou Emmanuel
c'est ça,
Macron,
ouais. C'est ça, ouais.
De toute manière, ça va être un peu compliqué. Donc, autant se concentrer sur des choses assez simples. Et puis après, je dirais que... Il y a un vide, vous savez, la fameuse petite mort du sportif, etc., dont on parle, la petite déprime post-carrière.
Vous l'avez eu ?
Je ne l'ai pas vraiment eu, dans la mesure où, évidemment, je me suis posé la question, la fameuse question de quel sens donner à sa vie ensuite. Et j'ai trouvé la réponse assez rapidement, je dirais, parce que je me suis rendu compte que s'il n'y a plus personne au bout du fil après votre carrière... C'est un peu compliqué, plus personne vous répond, etc. Il faut juste entreprendre, il faut juste avoir des projets et aller voir les gens. Et c'est vrai qu'en étant champion olympique ou champion du monde, etc., les portes s'ouvrent un petit peu plus facilement que pour d'autres. Et il faut juste avoir la gouaille et puis de bon matin se lever un peu tôt. Quoi.
Vous avez cette chance d'avoir, il faut le dire quand même, un profil un peu atypique. Hein. Vous avez eu un bac S, vous avez repris des études d'ailleurs après la natation.
Oui, à Dauphine.
Voilà, et pas longtemps quand même, il faut être longtemps. Totalement honnête.
Voilà. Non, mais vous avez plein de centres d'intérêt, c'est ce qui fait que c'est plus simple.
Malheureusement.
Un mot quand même pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose de la natation comme moi, vous avez arrêté votre carrière à 24 ans, en foot certains vont jusqu'à 35, 36 ans. Pourquoi la natation, c'est un sport où on ne peut pas aller beaucoup plus loin qu'à 25 ans, on est déjà sur la pente descendante ?
Si, on peut y aller. Bon, ça dépend des distances. Quand vous faites de l'eau libre à 10, 25 bornes à chaque course, c'est peut-être un peu plus usant, un peu plus épuisant. Mais regardez par exemple un Florent Manoudou qui revient.
Donc c'est possible. Ça a été plutôt un choix pour vous. Vous auriez pu finalement continuer.
Il y a de cela encore 20-25 ans, c'était un petit peu compliqué d'arriver aux alentours de la trentaine. Et voilà, on était un papy. Aujourd'hui, c'est chose assez courante.
À aucun moment, par exemple, vous vous êtes dit « je vais faire comme Florent Manoudou, je vais reprendre, le chemin des bassins
bah, ». La différence entre Florent et moi, c'est que pour Florent, quand il s'est arrêté après Rio, pour lui, c'était un break. Dans sa tête, ce n'était pas la fin. Il savait qu'il aurait sûrement envie de revenir dans les années suivantes. Pour moi, c'était vraiment déjà cliqué. Et j'avais déjà la suite en tête post-natation.
Et vous pensez qu'il peut y arriver à revenir à un haut niveau de la natation?
Ah oui, c'est fait. Ouais. Pour vous donner un ordre d'idée, il a repris, après 10 semaines d'entraînement, la compétition. Donc déjà, il n'est pas allé à trifouiller les oies dans un meeting régional en se disant « bon, ben c'est bon, je vais me rassurer ». Il est allé directement dans un meeting international avec le type qui avait à l'époque la meilleure performance mondiale de l'année. Et il lui a dit « bon, toi, je vais te défoncer
». C'est un état d'esprit.
Donc, il est parti et il réalise seulement après 10 semaines d'entraînement la 7e meilleure performance mondiale de l'année.
Ouais, donc c'est énorme. Donc il a toutes les chances de revenir.
Tous les voyants sont au vert et s'il le veut, il l'aura, sa médaille.
Il a marqué l'histoire de la natation française. Il est désormais un des plus jeunes retraités de France. Yannick Agnel passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Dire qu'il y a quelques semaines encore, la rédaction d'Europe 1, c'était des collègues soudés, des pots arrosés, des éclats de rire dans les couloirs.
Un peu de sexe aussi.
Oui, aussi. Hélas, tout ça a volé en éclats par ma faute. Désormais, les journalistes d'Europe 1 ne peuvent plus se blairer et pour cause, ils sont en compète pour le titre de chroniqueur du jour. Qui l'emportera ? Peut-être Nicolas Caro. On connaissait le clan Campbell, surtout Eva.
Ah ouais.
Et il vous fera découvrir Joseph Campbell, un auteur génial qui a inspiré nombre de pointures du cinéma. Sans lui, par exemple, il n'y aurait peut-être jamais eu Star Wars. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit. 2 heures pour détendre vos zygomatiques tout en musclant vos cerveaux. Apprendre en s'amusant par l'entremise d'une folle compétition opposant les meilleurs journalistes d'Europe 1. Sous l'œil d'un compétiteur dans l'âme, champion olympique qu'on surnommait le Squall. Yannick Agnel est notre invité d'honneur. On vous appelait le Squall. Je vous présente celui qu'on appelle ici le Mérou. Mou, mais vicieux. C'est un combattant dans l'âme qui n'hésite pas à mettre la pression sur ses concurrents, comme à Angèle tout à l'heure.
Je vais t'exterminer.
Nicolas Caro a en commun avec vous, Yannick, une passion pour l'élément aquatique. D'ailleurs, ne le branchez jamais sur le sujet, vous y serez encore demain.
Je voulais être amiral, c'est loupé. Amiral dans la marine, et puis après, je me suis dit que c'était la guerre, donc j'ai dit capitaine de marine marchande.
Oui, non, on s'en fout, Nicolas. Finalement, journaliste. Nicolas Caro, vous êtes notre expert littéraire. Focalisez-vous sur une chose, la victoire. Avec quel sujet allez-vous nous surprendre aujourd'hui?
Alors donc, quel est le point commun entre les vieux mythes, la mythologie, la légende du roi Arthur, le Seigneur des Anneaux et Star Wars? Eh bien, c'est la même histoire. En 1949, Joseph Campbell, un prof d'université, grand spécialiste des mythes, publie « Le héros aux mille et un visages ». Il explique qu'en fait, on raconte toujours la même histoire. Sa théorie s'appelle le monomythe. En fait, on a tellement intégré les vieux mythes qu'inconsciemment, on les reprend toujours. On change évidemment les personnages, les situations, c'est pas toujours la même chose, mais on y revient toujours et on suit le même schéma narratif, la même trame, si vous voulez, et je vous la donne. Comme si vous aviez une carte qui marche à la fois pour Paris et Dakar. Le héros, en général, au début, vit tranquillement, à l'abri des péripéties. Il s'ennuie un peu même éventuellement. Et voici la première étape, c'est l'appel de l'aventure. Un événement qui sort le héros de sa petite vie, de sa routine, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Frodo doit quitter la paisible comté pour cacher l'anneau. Idem pour Arthur, idem pour Luke Skywalker. Et tout ça se fait
Qu'est-ce qu'il fait Luke Skywalker au début de Star Wars? Il glande, je ne me souviens pas.
Il glande, vous savez, il est chez son oncle et sa tante jusqu'à ce qu'il
ait... Ah oui, il était père, effectivement.
Tout ça, ça se fait grâce à ce que Campbell appelle l'aide surnaturelle, c'est-à-dire l'intervention d'un vieux sage. Ça peut être Gandalf, ça peut être Merlin, ça peut être Obi-Wan Kenobi. J'ai pris ces trois exemples, ça marche pour tous les sujets, même les trois mousquetaires, il y en a plein. Citer n'importe quelle histoire, ce serait la même chose. Il y a l'aide surnaturelle, donc c'est cette intervention du vieux sage. Puis, le passage du premier seuil, ça c'est une fois qu'il est parti, le héros qui entre de plein pied dans l'inconnu, dans le danger, dans l'aventure. C'est un point de non-retour, là, il est engagé, il peut plus s'en aller.
La rencontre avec Porthos, Aramis, le duel.
Par exemple, effectivement, là, il est obligé d'aller au duel.
Je suis bien, votre
cours. Question d'honneur.
Ouais.
Voilà. Et de toute façon, comme dans Frodo, qui est poursuivi par les forces de Sauron, il ne peut plus reculer. Voilà. Mais à ce moment-là, le héros, il est encore malhabile. Il ne sait pas trop faire. Il a du potentiel, mais il apprend. Comme dans Star Wars, vous savez, il a la puissance, la force, mais il ne sait pas la maîtriser. Voilà, il va falloir l'apprendre. Et voici le temps de l'initiation, le chemin des épreuves, la maturation du héros, c'est-à-dire la formation. Il faut s'entraîner, il faut s'exercer, il faut tomber. Il faut connaître l'échec pour ensuite se relever et être de plus en plus fort. Ensuite, c'est la réunion au père. Ça, c'est un concept un peu psychanalytique. Ça peut être très symbolique. Hein. Ce n'est pas forcément le vrai père comme dans Star Wars avec Dark Vador. Puis, il y a l'apothéose. Ça, c'est l'épreuve suprême. C'est le boss de fin. Et c'est l'accomplissement de la quête. Et ensuite, il y a le retour. C'est-à-dire qu'il revient dans le monde ordinaire, mais il a changé, évidemment. Il est parti en quête d'un objet ou d'une mission, mais aussi en quête de lui-même, n'est-ce pas ? Et le héros n'est jamais tranquille complètement une fois de retour, puisque, en général, on le rappelle pour reprendre du service, comme dans Star Wars, l'épisode 7, etc.
Nicolas Caro, j'ai adoré cette chronique. Eva Rock voulait intervenir.
Mais oui, parce que ça ressemble un peu au parcours de Yannick Agnel et au parcours de votre héros, Yann, votre roman jeunesse que vous avez signé avec Pascal Rutter chez Hachette Roman. C'est un peu ça aussi.
Mon parcours personnel un peu moins, celui du roman beaucoup plus.
Parce qu'il est romancé justement selon ces recettes que Joseph Campbell a énoncées, découvertes et qui fonctionnent pour tout, jusqu'à... Aujourd'hui, Avengers, j'imagine.
Eh bien, tous les super-héros, effectivement. Alors, pas les Avengers, parce que quand on rencontre les Avengers, ils sont déjà tous des super-héros.
Ah, c'est vrai. Donc, il manque une étape.
Mais pris individuellement, c'est exactement le même schéma pour tous. Ils sont tous tranquilles au début. On vient les chercher. Il y a l'intervention d'un sage ou d'un maître. Et puis ensuite, ils rentrent dans l'épreuve. Et puis ensuite, ils se forment. Et puis ensuite, ils reviennent.
Fabuleux, Nicolas Caro. Très, très bonne chronique. Mais néanmoins, vous le savez, vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Angèle Châtelier vous a écouté.
Et elle jubile.
Elle n'est pas convaincue visiblement par votre chronique.
J'aimerais savoir, Nicolas Caro, qui a composé le générique de Star Wars ?
C'est John Williams.
Vous n'allez pas le piéger comme ça, Angèle.
Je vais travailler.
Vous êtes trop chou. Sur Tinder, dans votre recherche type, vous n'avez jamais pensé à mettre retraité. Erreur, il y en a de pas mal. Il fut double champion olympique, il s'est reconverti dans le e-sport. Yannick Agnel est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe sauvage continue les premières Olympiades du journalisme. Des athlètes visuellement peut-être un peu moins impressionnants qu'Yannick Agnel et ses potes nageurs, mais bougrement performants aussi. Musique, littérature, science, sport, innovation, tout y passe chaque après-midi sur Europe 1. Quelle chronique préférez-vous ? Qui sera élu chroniqueur du jour ? Peut-être Angèle Châtelier, notre expert musique, qui nous parlera de ces artistes que les jeux vidéo ont beaucoup influencés.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est vraiment un jour à marquer d'une pierre blanche pour la natation française. La rencontre de deux légendes des bassins. D'un côté, Yannick Agnel, double champion du monde, double champion olympique. De l'autre, Eva Rock.
Je ne sais même pas nager sans me boucher le nez avec les doigts.
Comment vous bouchez le nez si c'est pas avec les doigts, Eva ?
Eh ben, avec un pince-nez.
Ah, avec un pince-nez, d'accord. Yannick Agnel, vous avez remisé votre pince-nez en 2016 après une élimination au JO de Rio. Vous n'avez jamais regretté d'avoir pris votre tête à 24 ans ? Jamais vous vous dites, j'aurais pu tenir encore un ou deux ans ?
Si, j'aurais pu.
Oui, mais vous ne le regrettez pas ?
Ah non, jamais. Non. C'était dans mes plans justement d'arrêter assez tôt pour pouvoir faire quelque chose d'autre après, de ne pas être dans un carcan un peu, t'es nageur ou ex-nageur professionnel, tu ne pourras rien faire d'autre de ta vie.
Eva Rock.
Et avec le recul, qu'est-ce qui vous manque de ces années d'entraînement intensif et ce qui ne vous manque absolument pas ?
Voyager tout autour du monde, rencontrer plein de gens de cultures différentes, même l'entraînement. Je fais partie des gens qui adorent s'entraîner. Alors, j'en ai entendu beaucoup, hein, même des Laure Manaudou, par exemple, qui ne supportait pas l'entraînement, des André Agassi, qui disait que c'était un des pires trucs qu'ils aient jamais vécu de sa vie. J'ai adoré m'entraîner.
Les 7 heures par jour
au milieu
dans
de l'hiver,
l'eau, là.
Genre à la mi-février. Oh.
Voilà, et donc c'est la suite de mon propos, c'est-à-dire que à 6 heures du matin, quand vous savez que l'eau va être gelée, il y a ce petit frisson le long de l'échine, voilà, quand vous rentrez dans l'eau en plein hiver. C'est vrai que celui-là, il est costaud quand même.
Alors aujourd'hui, on va en parler. Vous coachez, ou plutôt vous êtes le directeur sportif d'une équipe de e-sport, donc des joueurs professionnels de jeux vidéo. Et vous dites que vous êtes plus stable et plus heureux. Le sport de haut niveau et le bonheur, ce n'était pas forcément tout à fait compatible. C'est plus épanouissant de faire ce que vous faites aujourd'hui.
C'est une question qui demande
une
longue réponse. Non, mais c'est vrai. Sur ce qu'est le bonheur et comment est-ce qu'on l'atteint. Il faut que j'y réfléchisse. Il faut que j'y réfléchisse un peu plus que là tout de suite. La réponse, ça serait C'est pareil que quand on est, je sais pas, dans une sorte de bataille un petit peu épique, etc. A posteriori, on se dit, bon ben, effectivement, c'est plus paisible quand on peut se lever un peu plus tard le matin, quand on peut prendre le temps, etc. Mais oh, sur le moment, qu'est-ce que c'était ouais. bien, je regrette pas en fait.
Vous avez démarré la natation à l'âge de 8 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
À 14 ans, vous rejoignez l'Olympique Nice Natation. Est-ce que votre destin, il est fixé très tôt ? Je veux dire, est-ce que comme Mbappé, à 10 ans, on savait qu'il allait probablement devenir un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas un grand joueur, est-ce que, pareil, en natation, à 10 ans, on savait que vous alliez pouvoir taquiner les records ?
Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit tout au long de mon parcours, mais on n'est jamais autant sûr que quand on a la médaille autour du cou. Donc,
Mais dans votre tête, c'était une certitude que vous vouliez faire champion et qu'il y avait une possibilité de le devenir ? Quand on est enfant, on arrive à se projeter ou pas ?
Vous étiez le squale déjà enfant ? Vous avez cette rage de vaincre tôt ?
Oui, j'étais plutôt mauvais perdant. C'est-à-dire que quand on joue au Monopoly avec moi, il faut mieux me laisser gagner et tirer un peu dans la caisse. Quoi, parce que sinon... Quand j'avais 8 ans, j'étais comme tous les gamins. Je voulais faire archéologue, puis médecin, puis cosmonaute. Puis j'ai vu les Jeux Olympiques à la télé. C'était les Jeux Olympiques de Sydney, donc, à l'époque. Mmh. Et je me suis dit, effectivement... J'aimerais bien être à leur place là, à la télé. Donc ça devait être Peter van den Hogenband et Jan Torp à l'époque sur 200 mètres nage déjà. Et c'est un vœu, une sorte de rêve qu'on forme un petit peu comme ça. Puis j'ai dû apprendre à nager parce que bon, ben moi je viens du sud, mes parents ont eu la chance de faire construire une piscine, etc. Et il fallait que j'apprenne à pas me noyer surtout.
C'est comme ça que ça a commencé
ouais,
en fait.
Ouais, vraiment utilitaire. Comme ça. Ouais, complètement. Et puis tout s'est bien passé. Tous mes petits copains étaient dans le groupe compétition, pas le groupe loisir. Donc je suis parti en groupe compétition et puis après bon voilà
les
championnats départementaux, régionaux, jeunes, seniors, etc. Et ça a grimpé petit à petit.
Eva a connu la même trajectoire dans l'athlétisme, mais on en parlera une autre fois. Aujourd'hui vous êtes donc directeur sportif d'une équipe de e-sport. C'est 13 joueurs professionnels spécialisés dans 3 jeux vidéo, FIFA, Fortnite et League of Legends, c'est-à-dire bon les jeux vidéo les plus joués au monde, je pense les plus importants. C'est quoi votre rôle exact vis-à-vis de ces joueurs ?
Le rôle exact, c'est... Moi, je n'y connais pas grand-chose au sein du jeu vidéo en lui-même, dans la technique, etc. Mon rôle, il est plutôt extérieur. C'est-à-dire, je vais mettre en place toute la méthodologie sur les petits plus qui feront qu'ils vont gagner quelques centièmes de temps de réaction ou qu'on va en faire des joueurs équilibrés qui pourront récupérer un petit peu mieux que leurs concurrents. Et donc, ça fait partie de tout ce qui est exercice physique, préparation psychologique, suivi médical, nutrition... Esprit d'équipe, routine lors des compétitions, etc., etc.
Et vous avez des résultats, je crois, des bons résultats.
Oui, on a quelques bons résultats. Alors pour ceux à qui ça parle, on a un joueur qui a fait deuxième à la Coupe du Monde de Fortnite cet été.
Fortnite qui est, je crois, le jeu vidéo le plus joué au monde.
Enfin, c'est assez largement. Ouais. Voilà. Assez largement. Même si on n'est pas joueur, tout le monde en entend parler. On a une équipe qui a fait troisième au championnat de France sur la LFL de League of Legends, qui est le deuxième jeu le plus joué au monde, certainement.
Donc ça démarre très fort pour
vous. Donc voilà, ouais, on a pas mal de bons résultats et j'en profite pour saluer les joueurs.
Il est l'un des plus grands nageurs français de l'histoire et pas que par la taille. Il dirige désormais une équipe de e-sport. Yannick Agnel est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe sauvage continue en compagnie donc de Yannick Agnel, un invité qui, je dirais, fait un peu trop l'unanimité dans l'équipe. L'année dernière, alors qu'on le recevait dans le 5-7, ça s'était un peu vu qu'on était fan, mais juste un peu.
Mais vous êtes parisien, Yannick, maintenant ?
Maintenant, ouais. Au niveau du teint, ça se voit un peu.
Et vous nagez toujours ?
Non.
Oh Yannick, vous êtes formidable. Oh, on espère que la chronique plaira à Yannick. Angèle Châtelier nous parlera de l'influence des jeux vidéo sur la musique de certains de vos artistes préférés. Espérons qu'il n'ait pas joué au même jeu vidéo que moi, sinon musicalement, ça risque d'être limité. A tout de suite.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
La tension qui règne dans ce studio n'est pas sans rappeler à notre invité Yannick Agnel les moments les plus décisifs de sa carrière lorsqu'il s'apprêtait à monter sur le plongeoir à Londres. Juste avant de s'élancer pour la finale olympique du 100 mètres. Et vous vous disiez, comme Nicolas Caro aujourd'hui...
Et je vais les démonter.
Pas de médaille olympique à gagner ici, mais une somptueuse couronne, 0 carat. C'est pour ce bijou déniché à la foire fouille que nos journalistes en compétition sont prêts à tout. Et je vous pose la question comme ça, Yannick, insidieusement, entre deux sons à la con. Comment devenir numéro un, comme vous l'avez été dans un monde où certains sont prêts à tout, comme on le disait, y compris à se doper ? Parce que c'est peut-être une naïveté de ma part, mais quand on vous connaît un tout petit peu, on n'imagine pas un instant que vous ayez pu toucher à des produits dopants. Pourtant, dans la natation, il y a des affaires tous les 3 mois. sur des gens qui se dopent. Comment on fait pour devenir numéro 1? Vous avez encore un record du monde sur 400 mètres, je crois, sans en étant complètement clean. À un moment, la question ne se pose pas. On ne vous dit pas, là, il faut prendre un truc ou...
Alors non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, je suppose que ça arrive à d'autres, puisque sur le podium du 200 mètres nage libre à Londres, les deux types qui sont donc derrière moi, deuxième et troisième, ont été chopés après.
Ah, c'est dingue. Et ils ont été chopés, ils étaient derrière vous quand même.
Donc je me suis dit, rapidement, ouais. Donc les mecs se disent, bon allez, on se charge, on prend le risque de se faire choper, etc. Et en plus, on gagne pas. Bravo les gars.
Ah, vous les avez bien dosés là.
Non, mais en vrai, c'est un gros sujet. J'y étais confronté rapidement. J'ai la chance d'avoir des parents aimants et de bons conseils. Et ce qui est assez dommage, je trouve, c'est que lorsque une des premières pensées qui m'a traversé l'esprit quand j'ai touché la plaque et que j'ai vu que j'étais premier, donc champion olympique, je me suis dit, ah mais en fait, on peut le faire sans être dopé.
On peut le faire sans, voilà.
Ah, vous avez pensé à ça à ce moment-là?
Ouais, je me suis dit, mais donc en fait, c'est faisable, quoi.
Nicolas Carreau.
Est-ce qu'il y a quand même une angoisse pendant les contrôles, même quand on sait qu'on est clean, en se disant, eh, s'il y a une erreur...
Si j'ai pris un médicament, si ouais, j'ai pris trop de Doliprane...
Je sais pas, un truc comme ça.
Non. Ben, on les connaît, les médicaments. Une fois, maintenant, je peux le dire a posteriori, ça m'enlèvera pas forcément mes médailles, mais une fois, j'ai pris un Fervex.
Ah oui, ça c'est interdit.
On parle de Fervex. Hein.
Oui,
donc ça reste, je crois, 3 jours dans après, les urines, etc. Ouais. Et j'ai appelé l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage, en leur disant, écoutez, comment ça se passe? Parce que je crois que le truc est dopant, ouais. Et si quelqu'un vient dans cet intervalle de 3 jours, ouais. C'est un peu compliqué. Donc effectivement, maintenant, depuis 3 ans, là, que j'adore être malade, quelque part, parce que je me dis, tiens,
je peux prendre tout ce que je veux.
Des corticoïdes, des machins, c'est génial. Je peux enfin guérir en l'espace de quelques jours. Quoi.
Eva Roth, qui a été chargée à l'EPO pendant de nombreuses années.
Vous parliez de vos parents aimants qui vous ont encadré, notamment sur ce sujet-là. Est-ce que vous avez l'impression que les enfants sont confrontés assez tôt à ces problèmes de dopage?
Bien sûr. Mais évidemment. La natation, probablement pas. Mais oui, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Il y a des gamins qui sont prêts à tout extrêmement tôt.
Et s'il y a des parents qui les poussent derrière parfois, qui veulent réussir à travers leur môme, peut-être que ça peut...
Je crois que c'est souvent la question, soit les parents, soit le personnel encadrant, les entraîneurs, etc. S'ils sont prêts à tout, effectivement, pour gagner même au plus jeune âge, ça finit mal. Et puis après, on a un dopage plutôt d'état.
Oui,
style Russie,
oui.
Peut-être
oui.
En Chine aussi, etc.
Oui,
qui là
Chine,
est
oui.
un peu plus compliqué.
Face à vous, Yannick, une journaliste qui n'a jamais pris le moindre anabolisant. Bon, elle a pris d'autres trucs en soirée.
Je vole.
Non, c'est juste un MDMA, ça fait ça. Voici Angèle Châtelier, la plus rock des journalistes d'Europe 1. Angèle, comme vous voulez les trois points de l'invité, vous avez décidé de nous parler de l'influence c'est des ça. Jeux vidéo, passion numéro 1 de Yannick Agnel, sur la musique, passion numéro 2 de Yannick. Je dis bien joué d'avance, mais je demande quand même à voir.
Oui, c'est pas à vous Yannick Agnel que je vais vanter les mérites que peuvent avoir les jeux vidéo, puisqu'on le rappelait, vous êtes directeur sportif d'une équipe de e-sport, alors autant dire que ça vous connaît. Mais savez-vous les liens qui unissent les jeux vidéo et la musique? Tiens, prenons Flavien Berger, un artiste audacieux, intrigant, qui présentait il y a quelques mois ses albums Contretemps et Radio Contretemps.
On m'a dit, on ne s'entend pas, tu es muette, interdite.
Alors Flavien Berger, il a commencé par tâtonner, par chercher des bruitages, des tonalités sur Musique 2000, un jeu sur PlayStation dont l'idée est de placer des blocs de couleurs pour faire des sons au magazine Les Inrocks. D'ailleurs, il raconte même que ses productions étaient parfois beaucoup trop lourdes pour être sauvegardées. Ce logiciel a façonné sa musique d'aujourd'hui et on l'entend d'ailleurs. Et puis si je vous fais écouter ça, peut-être que ça vous dit quelque chose.
On me rappelle ma dernière classe chez Eva. On avait pris des trucs, je me souviens pas de tout.
Voilà, c'est Crank That du rappeur Soulja Boy. C'est un morceau qui a été créé sur Fruity Loops, aujourd'hui devenu FL Studio. C'est un logiciel majeur de MAO. La MAO, c'est la musique assistée par ordinateur. Fruity Loops n'avait pourtant pas vocation à créer des tubes. Il a été fondé par Didier Golgambin à la fin des années 90. Lui, il travaille à Image Line. C'est une entreprise qui crée des jeux vidéo érotiques. Voilà.
Je connais pas du tout.
Mais c'est ça, ouais. Son idée l'idée avec Fruity Loops, c'était de créer un logiciel pour les gens qui ne sont pas musiciens, comme Nicolas Caro par exemple. De nombreux tubes sont nés aujourd'hui grâce à Fruity Loops, qui était très intuitif et facile d'accès à sa sortie.
Mais on peut aussi parler, s'il vous plaît, de Guitar Hero, ce jeu où on a une fausse guitare et où on reprend des tubes avec.
Comment c'est nul?
Bah, écoutez, on parlait au champion de France, donc s'il vous plaît, Guitar Hero, c'est super.
Oui, mais j'aimerais surtout parler de FIFA, vous connaissez évidemment.
Ah, ça.
Évidemment, célèbre jeu de football. Alors, le but n'est pas de créer de la musique sur FIFA, ça se saurait, mais il mérite qu'on s'attarde sur sa BO, qui est plus soignée.
Parce que Mathieu Noël, il connaît tout sur FIFA, il a été champion du monde, je sais pas trop quoi.
En niveau légende, 5 fois champion d'Europe avec l'Olympique de Marseille, et ça, c'est pas près d'arriver dans la réalité. Hein,
je pense que la musique y est pour beaucoup. Il y a ça par exemple, Kid de MGMT, c'était sur FIFA 9. Il y a aussi du Gorillaz, du Fatboy Slim, du New Order, des indispensables du rock et maître du genre. Alors j'ai quand même dû moi me renseigner auprès de mon entourage pour savoir où la musique est diffusée dans le jeu, parce que je savais pas.
Il paraît
que c'est au menu.
On passe son temps, on passe son temps dans les menus à échanger des joueurs, à acheter des joueurs. Ah bah oui.
Mais pendant qu'on joue un match, il n'y a pas de musique.
Il n'y a pas les chants de supporters, non ?
Oui aussi.
Je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est de quoi découvrir des groupes tout en savourant ses victoires ou ses échecs sur FIFA.
Merci beaucoup, Angèle Châtelier.
Yannick Agnel, embauché Mathieu Noël pour jouer à FIFA, qu'on soit débarrassé de lui.
Ça serait horrible de jouer contre ces joueurs. Ils me défonceraient. Alors que moi, contre l'ordinateur, contre la PlayStation, je gagne. Ça me va très très bien. Vous avez aimé la chronique d'Angèle ? Dites-le nous sur Twitter. Nicolas, comment vous avez trouvé Angèle, franchement ?
Moite, un peu malsaine aussi.
Merci. C'est un ancien champion des bassins qui coach désormais des champions du joystick. Yannick Agnel est notre invité cet après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Eva Rock, Angèle Châtelier, Nicolas Caro, je suis vraiment bien entouré cet après-midi. L'équipée sauvage continue. 2 heures d'une féroce compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Une compétition qui connaît néanmoins des pauses festives. Un moment que tout le monde adore ici, c'est celui où Eva Rock se fait rétamer par l'invité sur un quiz dont la thématique avantage clairement l'invité. Aujourd'hui, ça pourrait être par exemple la natation. Alors, Eva passera-t-elle une fois de plus ?
À 2 doigts de l'exploit.
Restez bien avec nous.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, l'émission préférée des sportifs et notamment de Cristiano Ronaldo.
Comment ça va ? C'est mes compétitions favorites.
C'est vrai que c'est l'équipe Ado Sopajo et mon émission préférée. J'adore ce principe de compétition entre les journalistes d'Europe 1. Mais ce que je préfère, c'est quand Eva Rock se fait atomiser par l'invité. Quel bon goût ce Cristiano ! Voici justement notre grand jeu. Qui veut gagner un slip de bain de star ? Le principe est simple, Eva Rock joue contre Yannick Agnel. Si elle l'emporte, elle remporte le slip de bain de Yannick qu'il portait au JO de Londres, dédicacé par lui. Si elle le perd, elle remporte un slip de bain que je portais hier à la piscine municipale du 15e arrondissement, dédicacé par moi. Dans les deux cas, évidemment, pour apporter de la valeur au cadeau, il n'a jamais été lavé. Aujourd'hui,
ce sera un
quiz musical mais qui vous rendra quand même hommage puisque vous allez écouter une chanson ayant pour thème l'eau, mais dont un mot va manquer à cause d'un gros plouf. C'est moi qui ai fait la bombe au mauvais moment. À vous de retrouver le mot. Vous avez compris le concept ?
Oui.
Ah oui.
Yannick Agnel en joue avec la piscine d'Isabelle Adjani et son pull marine. Écoutez et trouvez les paroles manquantes.
Viens vite au fond de la piscine, repêcher ta petite...
Repêcher ta petite quoi ? D'après vous, Yannick.
J'en ai aucune idée.
Alors normalement, ça rime avec
piscine.
Piscine. Ça doit finir en in. Alors repêcher ta petite...
Ta petite...
C'est difficile, hein.
Ah ouais.
Tétine.
Ta petite tétine, pourquoi pas. Au moins, c'est soft, hein, Yannick. Oui. Quel gentleman. Viens vite au fond de la piscine repêcher ta petite tétine, ou pas.
Viens vite au fond de la piscine repêcher ta petite sardine.
Ta petite sardine, alors celle-ci, franchement. Ah oui. Mais pourtant, j'ai écouté cette chanson de nombreuses fois, mais alors la petite sardine, je l'avais pas vue. Eva Rock, vous jouez avec Johnny.
Où coule le crime et la misère.
Je me suis lavé les mains dans... quoi ?
Bassine ?
Dans une bassine. Attention, ça ne rime plus forcément avec piscine. Ça, c'était l'autre chanson. Eva, elle est restée bloquée sur la rime de la première chanson d'Adjani. Alors là, non, ça ne rime pas. Quelle est votre réponse, Eva, sérieusement ?
Bassine,
d'accord, vous maintenez bassine. Il ne va pas y avoir beaucoup de points distribués dans ce quiz. On écoute Johnny.
Je me suis lavé les mains dans une eau sale.
Dans une eau sale ? C'est pas très malin, ça dit Johnny, dans une eau sale. Ça ne sert pas à grand-chose de se laver les mains dans une eau sale. Vraiment. Yannick Agnel, on joue avec Philippe Laville et celle qui aime faire l'amour en mer.
Elle danse, balance sur le pont rouillé d'un cargo. Elle aime le vent et tout ce qui porte un...
piscine.
Alors c'est en in, c'est ça. Qu'est-ce que c'est dur. Tout ce qui porte un...
Sur le pont rouillé d'un cargo, elle aime le vent.
Maillot.
Et tout ce qui porte un...
Un maillot. Mais ça serait logique, Philippe Laville. Oui. Si Philippe je vais vous dire, si Philippe Laville avait un tant soit peu de bon sens, ça serait la bonne réponse. Écoutons-le.
Elle aime le vent et tout ce qui porte un drapeau.
Un drapeau. Ouais, non, bah oui. Philippe Laville était nationaliste. Eh oui, on l'embrasse, évidemment. Eva Rock.
Oh, on est
on
mauvais.
Joue
là.
Ah, oui, zéro ouais. point ah, là, partout. C'est zéro catastrophique. À zéro. Eva Rock, on joue avec un de vos anciens amants, Eric Morena. Écoutez.
J'ai vendu des bagambagues.
Ah, mais c'est même pas en français.
Les mouettes m'écrit le...
Mais pas du tout, c'est du français. Je bondis de vague en vague, les mouettes me crient leur.
Leur. Leur. Quoi ? Elle me crie leur. C'était quoi la phrase d'avant ?
Je bondis de vague en vague, les mouettes me crient leur.
Tartine.
Leur amour ?
Leur amour ?
Ouais.
C'est vrai que ça pourrait être.
Oui, mais ça rime pas du tout, hein.
Ben non, mais ça pourrait être ça.
Les mouettes me crient leur bonjour.
Leur bonjour.
Oh ah, j'étais pas loin.
Vous n'étiez
ouais,
pas loin.
Pas loin.
Mais vous pensez que vous allez avoir un demi-point ?
Non,
un
pas
demi-point ?
Du tout.
Pas de demi-point.
Ouais, bah tu parles.
Un petit dernier pour la route, on est toujours à 0 à 0.
Ah, il faut qu'Yannick qui marque là.
Pour vous deux, Eva et Yannick. Une question de rapidité, c'est Oldelaf qui chante qu'il n'aime pas la piscine.
Après être passé au pédiluve, l'endroit où les verrues vivent en nature, on a mis des bonnets en caoutchouc qui tirent les cheveux, qui sentent les...
Les égouts ? Qui chantent les égouts ?
On a mis des bonnets en caoutchouc qui tirent les cheveux, qui sentent les égouts.
Oh, Yannick Allier est champion de natation et champion du quiz. C'est un garçon aux mille passions, le
sur
sport,
une chanson de Oldelaf,
les jeux vidéo, la musique disco. Il était un sportif hors norme, légende des bassins. Il coach désormais des champions de jeux en ligne.
Voilà.
Il est dur comme coach. Yannick Agnel passe l'après-midi sur Europe.
Europe 1.
Se cultiver, oui, mais sans prise de tête. C'est l'idée qui a présidé à la création de cette émission, d'une part parce qu'entre 16 et 18 heures, on n'a pas envie de se prendre la tête, et d'autre part parce que le QI du présentateur de cette émission ne le permet pas. Comme vous avez pu le constater la saison dernière, alors que ce sympathique barbu pas très fut-fut tentait de contredire Nicolas Carreau sur un calcul.
Bah, c'était pas il y a 10 000 ans, ou alors c'était en 10 191.
Oui, à peu près. Oh.
Le 11e siècle, c'est 100, on est en 100 091, non ?
Le 11e siècle, on est en...
Ah si, là on est au 20e.
Oui, les plus grands esprits de notre époque sont réunis dans ce studio. Alors restez avec nous dans un instant. En quête d'idées sorties, nous vous font découvrir les classes du patrimoine. Un nouveau moyen pour découvrir les richesses qui se cachent parfois juste à côté de chez vous.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage. 2 heures pour comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire. En compagnie d'Eva Rock, Angèle Châtelier, Nicolas Carreau, impayable fanfaron de l'info, prêt à tout pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Sous l'œil complice mais exigeant de notre invité arbitre Yannick Agnel, mais il est l'heure de marquer une pause dans la compétition et de nous inviter chez vous, en région. Aujourd'hui, dans Régional Géographique, un bon plan sorti. Avant, pour découvrir la richesse du patrimoine, il y avait les guides ou les podcasts natifs européens reconstituant avec des moyens hollywoodiens les grandes pages de l'histoire, comme la Révolution.
Ah, le cochon ! Qu'on lui fasse penser, il a envie de fuir !
Podcast disponible dans lequel Eva Rock intervient. Désormais, il y a mieux. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant dans le Var et à Sifour, grâce à une option patrimoine, des collégiens effectuent des sorties et même en voyage. Vous avez rencontré une classe de 3e qui a passé plusieurs jours dans les vignes pour les vendanges.
Effectivement Mathieu, hein, c'était au domaine de la Mourette, on est sur les hauteurs du Brusque à Sifour, le paysage est à couper le souffle, hein. La mer est juste en face, par beau temps on voit même les calanques de Cassis, mais là c'est du raisin que ces élèves de 3e ont récolté et ils ont fait leur sport, c'est d'ailleurs un prof d'EPS qui a eu l'idée il y a quelques années hein, de cette classe patrimoine et les places s'arrachent, plus de 90 demandes en 6e pour seulement 30 heureux élus, écoutez-les.
C'est différent, c'est sûr, ça change de la classe et de l'environnement scolaire.
Un seul porteur, un seul porteur.
C'est pas des stylos ?
Non, c'est des sécateurs.
Je pense qu'on va devoir faire un compte-rendu en SVT sur nos journées.
Les sciences de la vie et de la terre, une rédaction en français et même de la physique, tout ce que les jeunes font sur le terrain est prétexte à enseignement.
Et cette option patrimoine, elle est pour l'instant unique en France. Il n'y a qu'à Sifour que le projet pédagogique existe.
Exactement. Et ce projet qui commence en 6e et 5e par la découverte du patrimoine bâti, hein, les ports et les édifices de la région, se poursuit en 4e par la découverte de la gastronomie. Ça, ça vous intéresse,
ah,
hein,
j'imagine. Pas mal, ouais, pas mal.
Et en 3e, l'apprentissage du provençal, hein, la langue. Alors, ce projet est plébiscité par les élèves et leurs parents et il est basé en grande partie sur le bénévolat des enseignants. Ici, pas d'aide de l'éducation nationale, en tout cas pas pour l'instant. Espérons qu'après nous avoir entendu, le ministère les soutienne un peu. Frédéric Papillon est professeur de SVT et Jean-Christophe Boréani est le professeur de PS à l'origine du projet.
Je leur explique un peu en direct ce qu'ils voient et ce qu'ils observent sur la nature. Mardi, on a commencé les vendanges et il y en a beaucoup qui voyaient qu'il y avait des raisins qui étaient un peu pourris. Et on leur a expliqué les moisissures et les pourritures, l'importance que ça a de transmettre les champignons dans le vin et la vinification.
On se sert beaucoup de l'extérieur, les rencontres, tout ce qui est bâti aussi, pour s'enrichir au niveau de nos connaissances, mais surtout donner du sens par rapport à ce qu'on apprend. Et ça fonctionne. Des enfants qui ont des meilleurs résultats scolaires, moins d'absentéisme, moins de retard, beaucoup moins de sanctions.
Mais dites-moi, la dégustation, ça s'est passé comment? C'est des collégiens quand même, il y avait des crachoirs, j'espère.
Alors, ils dégusteront un petit peu plus tard, hein, l'année prochaine, hein, parce qu'il faut le temps que le vin se fasse, mais sans abus, hein, évidemment.
Bien évidemment.
Avec et c'est notre copain, modération, toujours.
Évidemment. Ouais. Et c'est quoi la prochaine sortie, Frédéric?
La Corse. La Corse, pour un échange linguistique avec les élèves de Lille, ce sera dans quelques jours, car après, les élèves de 3e ont du pain sur la planche, ils doivent préparer leur brevet et leur option peut leur apporter des points. Hein. Leur parcours de la 6e à la 3e compte pour l'examen. Vous avez envie de retourner à l'école, Mathieu et Eva?
Ah, bah là, plus,
ah oui,
que jamais. Plus
carrément.
Que jamais.
Pour faire mon petit précis de provençal.
Oui, et surtout pour le pinard, surtout.
Et pour, et pour goûter la récolte, ce sera du rosé. Hein.
Ça marche.
C'est parfait.
Merci beaucoup, Frédéric Michel. On rappelle que vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nice. Nice, où notre invité a fait ses débuts, ses premiers ploufs, comme on dit dans le jargon technique de la natation. Yannick, quels souvenirs vous gardez de cette époque? Vous êtes un enfant du Sud?
Ah oui, je suis né à Nîmes, j'ai vécu 14 ans là-bas, puis après j'ai vécu pas mal d'années à Nice aussi, donc oui, je suis nîmesois.
Vous êtes nîmesois.
Je ne peux pas froisser ni les uns ni les autres.
Ça vous fait un point commun avec Eva Rogue, vous savez.
Mais
ça.
Mais oui, est-ce que vous avez l'impression que je parle avec un accent? Pas du tout, on est d'accord?
Non, ça va.
Voilà.
Moi je trouve que ça va.
Vous ne vous rendez pas compte qu'elle a un accent?
Et moi, non. Je ne me rends pas compte qu'il a un accent.
Mais Yannick Agnel n'a pas d'accent du tout.
Et ben, moi non plus.
J'ai gardé les hauts.
C'est voilà.
Dites un peu les roses pour voir.
Rose.
Ah voilà.
Et voilà.
Oh, il est piégé.
Merci Yannick.
Mais on
merci
les adore
beaucoup.
Les Niçois, les Nîmesois. Yannick Agnel, le Squal est notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour chatouiller vos zygomatiques tout en musclant vos cerveaux. À la fin, on prendra tous notre douche avec Eva Rock. Mais avant, le réconfort, l'effort. La compétition fait rage entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul se coiffera tout à l'heure de la couronne de chroniqueur du jour, celui ou celle dont le sujet vous aura le plus captivé. Vous votez via Twitter. Quant à notre invité, la légende des bassins Yannick Agnel, je le laisse coacher nos deux prochains concurrents.
Je suis pas venu ici pour qu'on se fasse des toutouches sous la douche. T'as de compte.
Ah oui, bah, c'est un vrai coach, hein, l'ancienne. Bonne chance à eux.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures à la lisière du rire et du savoir, sous la forme d'une grande compétition mettant aux prises les meilleurs journalistes d'Europe 1. Une émission extrêmement bien fichue, contrairement à ce que n'a eu de cesse de souligner notre invité, le très tatillon Alexis Michalik.
Je sais plus, je crois que j'étais payé 10 000 francs pour 5 jours de tournage. Pour nos jeunes auditeurs, ça fait 1 500 euros. Et s'il y en a.
Premier tac, ensuite, ça a été le tour de ce pauvre Mathieu Charrier de se faire épingler.
Clairement, Mathieu, il a pompé un article de Sofine, donc je vais pas...
Quand on a l'honnêteté de citer ses sources...
Oui, oui, bah oui, bravo Balkany.
Alors évidemment, quand on a eu le malheur de poser la même question à l'invité à 20 minutes d'intervalle, il nous a pas loupé, le salaud. Vous les avez tous visités, ces pays, ou vous avez voyagé par Instagram?
Alors non, j'en ai visité une partie, et puis les autres, ben...
L'Inde est très présente dans votre roman, notamment à la fin du livre. Est-ce que vous avez visité tous les pays que vous évoquez dans le roman?
C'est une question qu'on a déjà posée au cours de l'émission.
Bon, sinon, comme je vous le disais, c'est une émission qui est plutôt bien fichue, normalement. À suivre, deux nouveaux compétiteurs, Jérôme Lacroix et Anne Le Gall. Avec eux, on évoquera la Coupe du Monde de rugby qui démarre demain et les taxis volants qui arrivent, enfin, il paraît.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage se poursuit. 2 heures de savante bonne humeur durant lesquelles les meilleurs journalistes d'Europe 1 défilent au micro pour tenter de vous livrer l'info la plus étonnante, l'histoire la plus palpitante, celle que vous aurez hâte de raconter ce soir à vos proches. Qui sera élu chroniqueur du jour? C'est vous qui décidez, vous et notre invité d'honneur, Yannick Agnel, légende de la natation française. Ensemble, on parle forcément beaucoup de sport aujourd'hui.
Parce qu'en définitive, le sport, oui. C'est une histoire qu'il faut raconter. Ce n'est pas simplement des matchs que l'on découvre.
Oui, monsieur le président, mais là. Oui.
C'est en définitive des feuilletons qui se passent sous nos yeux.
Oui.
Et
oui, mais là, le retourne.
Connaître des gloires, puis après
monsieur
des déclins,
président.
Puis ensuite.
Oui, mais on s'en fout, coupez-le. Le sport, on continue d'en parler, puisque la Coupe du Monde de rugby démarre au Japon. Et c'est l'objet de la chronique de notre troisième concurrent aujourd'hui. Voici notre expert sport, Jérôme Lacroix. Originaire de Toulouse, il incarne à lui seul les valeurs et les joies de l'Ovalie, de l'impact, de l'abnégation et des réjouissances surtout de la troisième mi-temps. Comment allez-vous mon GG? Il paraît que vous avez rêvé des Varrocs et Anne Le Gall cette nuit.
Toutes les deux, topless quoi, oui. Se frotter
oui,
comme
oui,
ça.
Vous nous raconterez après, parlez-nous plutôt de votre thème du jour Jérôme.
Oui, bonjour à tous, moi je vais vous parler effectivement rugby et instinct tribal, côté tribal. Je vais réveiller votre côté tribal. Puis je vais l'éteindre tout de suite.
Ah bon. Ascenseur émotionnel en perspective avec vous. À vos côtés, Jérôme, celle qui habite vos rêves, si j'ose dire.
Mais c'est une contrepétrie, non?
Non, Eva, non. Elle est notre spécialiste environnement. Non, c'en est pas une autre. Sa gentillesse et sa marque de fabrique, elle n'est pas taillée pour la compétition. Alors de grâce, Jérôme, comportez-vous avec elle en gentleman.
Les suçons, ça compte pas.
Si, ça compte. Je vais vous enlever des points, Jérôme. Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour à tous.
Anne, alors... vous savez, écolo, tendance décroissante, mais visiblement, vous êtes aussi pour la dépénalisation des drogues douces, puisque vous nous annoncez l'arrivée prochaine des taxis volants.
Exactement. Et c'est véridique. Parce que je me suis dit, comment impressionner un champion de natation qui est parfaitement à l'aise dans l'eau? Eh bien, je vais vous emmener voler sur l'eau, sur la Seine.
Et ça va vraiment
arriver,
ça?
Et j'ai testé ces taxis volants.
Vous êtes monté dedans et ça a volé?
Absolument.
Génial.
Je vais tout vous raconter.
Quelle chronique notre invité Yannick Agnel préférera-t-il, les taxis volants ou le côté tribal des rugbymen? Réponse juste avant 18h. Alors Yannick Agnel, en 2012, vous étiez sacré champion olympique sur 200 mètres nage libre et sur le relais 4x100. 12 ans plus tard, les JO vont avoir lieu à Paris, chez nous. Est-ce que vous comptez vous investir dans cette grande fête du sport?
Oui, je le fais déjà un petit peu, côté sport et côté e-sport. Si je m'investis plus avant dans Paris 2024, il va falloir que ça soit pas un poste honorifique, mais quelque chose qui a un véritable impact. Donc je suis encore en train d'y réfléchir, on a encore le temps. Malgré tout, c'est quand même dans quelques longues années. Mais c'est chouette.
On pense que Paris va beaucoup changer pour ces JO, en tout cas c'est ce qui est annoncé. Est-ce qu'il va y avoir de la natation dans la Seine? C'est
le
envisagé.
Projet initial, oui.
Vous nageriez dans la Seine actuellement?
Non.
Voilà, il va falloir la purifier un petit peu d'abord. Hein. Oui.
Je pense que Chirac est beaucoup plus courageux que moi. Mais ouais, l'idée, c'est d'arriver à la purifier. Alors, je ne sais pas trop comment, je ne connais pas trop les procédés, mais à mon avis, il y a pas mal de vannes à couper et d'argent à perdre dans cette histoire. Je pense qu'au final, alors, peut-être que je me ferai contredire dans quelques années, mais je pense que ça sera plutôt du côté du canal Saint-Martin.
Oui, ou le bassin de la Villette. Effectivement, oui. Où on peut déjà faire un petit peu de bateau. Moi, j'en fais l'été, si jamais vous voulez me retrouver. Vous pouvez me retrouver, je suis là. Eva Rock, vous vouliez ajouter quelque chose plus intéressant que ma réflexion?
Oui, tout à fait. En parlant
qui va pas être très compliqué.
En parlant des Jeux Olympiques de 2024, est-ce que vous pensez que la natation française sera au niveau? Parce qu'en ce moment, c'est quand même pas terrible.
Vous manquez un peu.
2024, ça va être long, ça fait un peu loin. Après dire, les gamins, les gamines qui aujourd'hui sont des gamins, des gamines, seront peut-être des champions d'ici 4-5 ans. Ça va très vite en natation, donc ce serait un peu difficile. Ce que je sais, c'est qu'on a quelques pépites dès maintenant qui pourront faire leurs armes d'abord l'année prochaine et puis ensuite en 2024. Donc difficile de prédire, là on est un petit peu effectivement dans le creux de la vague, mais je pense qu'au lieu de les enfoncer en permanence dans les médias, faudrait surtout leur donner un petit coup de pouce et les encourager, c'est ce qu'on essaie de faire.
T'as compris Eva, essayez d'être positive un peu.
Oui, je le suis.
Alors Yannick Agnel, les Français se souviennent-ils de vos exploits ou bien sont-ils des ingrats? C'est ce que nous allons découvrir, non pas avec un micro-trottoir, mais pire, un micro-trottrage. C'est comme un micro-trot, mais il n'est pas monté, on a tout laissé.
Yannick Agnel, à part un nageur, je vois pas.
Il me semble qu'il a pas fait le 200 mètres. C'est pas un bon dans le 200 mètres. Je sais pas.
Il était dans le 4x100 mètres, si j'ai bonne mémoire.
C'est un champion, non? Il me semble, médaillé, ouais.
Yannick Noah?
Non.
Non? Non, c'est pas Yannick Noah?
Bah, moi, j'aime bien les voir quand on voit les... Personnellement, je sais pas nager, donc... Mais franchement, je les aime bien.
Yannick Agnel, un sportif.
Il est très beau, oui.
Mais mignon. Il est mignon. Hein. C'est comme Camille.
Camille Lacour.
Camille, elle est beau. Hein.
Il représente la France, donc c'est important pour nous, oui.
On est bien représenté avec des beaux gosses, comme on
voilà,
dit.
Voilà, exact.
Ah, tu vois, du coup, on aime de regarder tout le temps.
Elles sont géniales. Voilà.
Yannick, on est entre nous. On est vraiment entre nous. J'aimerais que vous me répondiez sans tabou à la question que je vais vous poser.
Oulala.
Est-ce que lorsque vous avez choisi la natation comme sport, vous aviez dans un coin de votre tête que peut-être un jour ça vous permettrait de pécho des meufs?
Alors là, jamais. Sachant.
Oh non.
Ah non, non, vraiment, vraiment. Sachant ce à quoi je ressemblais il y a encore quelques années, c'était pas gagné. Quand même.
C'est vrai, c'est-à-dire
bah, j'ai jamais été ni le musclé de la bande, ni le beau gosse. J'étais
c'est
plutôt
le
gamin un peu famélique, avec des boutons sur le visage, etc. J'étais plutôt celui-là. Donc peut-être que d'arrêter d'avoir pris un petit peu de poids, ça m'a aidé.
Ah, ça veut dire que vous pécho en ce moment.
Ah non, mais... c'est une information, c'est une information qui balance comme ça. Voilà. Ça revient quand même beaucoup, ce fantasme du corps du nageur. C'est intéressant parce que vous, au contraire, vous nous disiez à l'instant, ce corps, c'était votre outil de travail, mais rien de plus, c'était pas du tout une fierté à aucun moment. Même quand vous étiez au top physiquement, vous vous êtes jamais dit, vous avez jamais aimé, genre à la plage, vous dire tiens, je suis comme Yannick Agnel, je vais un peu leur montrer. Non, c'est pas un truc qui vous traversait l'esprit.
Alors, c'était pas un truc qui me traversait l'esprit à l'époque, mais maintenant que j'ai pris un peu de. Tu sais, la bedaine, le fameux dad bod, tu vois, c'est un peu plus difficile de se dévêtir à la plage.
C'est
donc,
vrai
ah ouais, bah ouais, ouais, ouais. Je me dis, mais ils sont passés où les abdos? Ils sont cachés? Ça y est, c'est fini.
Yannick Agnel, double champion olympique de natation, est notre invité jusqu'à 18h. Europe 1. Eva Rock, Anne Le Gall, Jérôme Lacroix sont à mes côtés, prêts à tout pour décrocher le titre de chroniqueur du jour. Quand on voit l'état d'excitation dans lequel se trouve, par exemple, Jérôme Lacroix, on se dit que heureusement qu'il n'y a pas de contrôle antidopage, car une telle énergie cache forcément un sombre secret, n'est-ce pas, Gégé?
Un petit peu de...
Mais mon Dieu, n'en dites pas plus. Mais Anne Le Gall, notre expert environnement, est-elle plus clean? Pas sûr, vu qu'elle va nous expliquer très sérieusement qu'elle a vu des taxis volants. Elle les aurait même testées. On va vérifier quand même.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Quand on pense qu'il y a un mois à peine, la rédaction d'Europe 1 nageait dans le bonheur et la franche camaraderie, croisant Jérôme Lacroix, la machine à café, Anne Le Gall lui faisait pouet-pouet camion et Gégé s'exclamait. Mais ça, c'était avant. Avant qu'un fou invente l'équipe est sauvage. Deux heures d'une lutte sans merci entre les journalistes d'Europe 1 transformés en rivaux pour mieux étancher votre soif de savoir. Désormais dans la rédac, c'est chacun pour soi. Tout le monde doute de tout le monde et se pose des questions sur ses collègues, comme Jérôme vis-à-vis d'Anne.
Est-ce bien une femme?
Bref, l'ambiance y a beaucoup perdu, hein, je ne vous le cache pas. Justement, Anne, c'est à vous. Et visiblement, vous avez trop regardé le cinquième élément.
J'ai surtout envie d'épater Yannick Agnel. Je suis allée sur le terrain et donc je vais vous emmener voler sur l'eau. Voler sur l'eau parce que j'ai testé hier un Sea Bubble, donc un prototype de taxi volant qui est capable de planer au-dessus de la Seine. Alors suivez-moi, on va partager cette expérience. Vous entendez le clapotis de la Seine. Alors vous imaginez, nous sommes sur le ponton, on embarque dans un bateau en forme de voiture, une petite voiture, 4 places, type Fiat 500, Smart. Corentin Bigot, architecte naval et pilote, met le contact et nous voilà partis sur la Seine.
Là, actuellement, on est en train d'accélérer et on vient juste de décoller là. Voilà, donc, on entendait le petit clapotis que l'on n'entend plus maintenant. Ça veut dire qu'on est en train de voler. Là, on est à 25 cm au-dessus de l'eau. On ne fait pas de vagues et on n'émet aucune pollution non plus.
Mais alors, vous étiez à quelle vitesse là? Ça fait presque aucun bruit.
Ouais, 25 km/h. Alors oui, effectivement, c'est silencieux, moteur électrique, donc ça ne pollue pas, ça fait pas de bruit et aucune vague, puisque si le bateau vole au-dessus de l'eau là à 25 cm, c'est parce qu'il y a des foils, donc des sortes d'ailerons, des dérives qui maintiennent le bateau en équilibre sur l'eau.
Est-ce que ça ressemble un peu à ce qu'ils ont dans la compétition, les grands marins là, qui traversent
absolument. Grands... C'est inspiré des hydroptères.
Vous notez ma compétence technique quand
oui,
même en matière de navigation, les grands bateaux là avec les grandes boîtes.
Mais vous y êtes d'ailleurs, le créateur, l'un des créateurs de ce taxi-bateau, c'est Alain Thébault, qui est navigateur et donc qui a navigué comme ça avec des hydroptères. Hier, on est passé à 5 mètres d'un couple de cygnes, juste pour vous dire, et des oiseaux donc, qui étaient tranquillement sur la Seine, qui n'ont pas bronché, ils n'ont même pas tourné la tête. C'est pour vous dire à quel point c'est silencieux et ça ne fait pas de vagues. Ça consomme 40% d'énergie en moins par rapport à un bateau classique. Les concepteurs de la Sea Bubble, donc, ils voient une solution pour désengorger les villes, limiter les embouteillages. Et Angers Bringdal, le cofondateur suédois de la société, vise une commercialisation dans un an et demi.
Aujourd'hui, on a la preuve en face de nous, un bateau qui est très fiable. Elle vole, c'est une sensation fantastique. Le bateau a 2 heures d'autonomie, 35 minutes de recharge. L'énergie qui rentre dedans coûte 3 euros l'heure.
Et c'est bien de savoir que Dave donc, s'est lancé dans ce projet de bateau volant. On l'embrasse, hein, il était un super invité l'autre jour et en plus il est en pointe sur le bateau volant. Et alors, ça a l'air d'être tout bénef votre histoire, mais qui pourra conduire ces taxis volants? Il faudra un permis?
Oui, un permis fluvial. Donc effectivement, ce ne sera pas donné à tout le monde, mais l'idée c'est d'en faire des taxis qu'on pourra appeler, commander grâce à une appli. Et les concepteurs assurent que ça ne devrait pas coûter beaucoup plus cher qu'une course de taxi. Et plusieurs villes se sont déjà montrées intéressées au-delà de Paris. En France, par exemple, il y a Lyon, et à l'étranger, il y a Miami, San Francisco et Londres également qui sont intéressés.
Imaginez Venise.
Ah ouais, mais ça changerait des gros paquebots qui polluent.
Moi, je lance des idées comme ça. Moi aussi, j'ai cette fibre entrepreneuriale.
Ouais. On va laisser tranquille Venise, si vous voulez bien. Ils n'ont pas besoin
de ça en plus.
Mais non,
ils n'ont pas besoin de plus, d'accord. Alors, je me tais, effectivement. Merci, Anne Le Gall. Seul moyen de vous déstabiliser. La question vache de l'autre chroniqueur, Jérôme Lacroix. Vous avez une question pour Anne.
Est-ce bien une femme?
Non, pas celle-ci. Non, s'il vous plaît, Jérôme. Non. Une vraie question de fond.
Ça paraît facile de déstabiliser quelqu'un qui nous explique que l'eau et l'électricité font bon ménage, déjà. Mais au-delà de ça...
Alors attendez, parce que la batterie, normalement, ça se recharge à quai. Mais donc sur l'eau, elle est dans un caisson étanche.
Vous parlez des batteries. En gros, vous nous expliquez que la solution, c'est très écolo. Moins 40%, je crois, c'est ça que
Absolument.
Vous avez dit dans votre...
Absolument, de consommation d'énergie.
En fait, pour les fabriquer, ces batteries, c'est un vrai problème écologique.
Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est
Alors,
la question.
On a toujours le problème aujourd'hui du recyclage des batteries, mais c'est aussi une question qui se pose pour l'industrie automobile. Évidemment, oui. Si on va dans ce filon-là, on améliorera le recyclage. Le but, c'est qu'effectivement, on arrive à terme à mieux recycler les batteries, puisqu'effectivement, ce n'est pas optimal d'un point de vue écologique aujourd'hui. Mais on va y arriver.
On va y arriver ou pas.
Zéro émission. Là, ça pour l'instant, trouve... c'est surtout zéro émission de CO2.
Ça se trouve, dans 10 ans, on découvrira que c'était l'hydrogène la bonne solution et qu'on s'est tous fait avoir. Votre chronique, Anne, aura-t-elle captivé nos auditeurs? Et notre invité, Yannick Agnel, se rendra-t-il aux épreuves de natation des JO de 2024 en taxi volant? Pour l'instant, il passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipée sauvage continue et redouble même d'intensité puisque la compétition va entrer dans sa phase décisive. Mais on n'oublie pas pour autant de répondre à cette question qui nous obsède tous à partir de 17h quand on commence à en avoir marre du boulot. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir? Pour ma part, Eva, je suis souvent incapable de faire un choix. Pourquoi?
Parce que t'as un trou de balle.
Non, ça va pas.
Mais ça va pas.
Non, parce qu'il y a trop de choix. Il y a trop de choix entre OCS, Netflix, MyCanal, il y a trop de choix.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h, 18h.
Mathieu Noël.
Il y a seulement un mois, la rédaction d'Europe 1, c'était encore la petite maison dans la prairie. Tout le monde s'aimait et s'entraidait. Et puis est arrivée l'équipée sauvage. Et depuis, la rédaction est devenue... Kouba, Croche-Patte, Béquille, Olive. Les vilains gestes se multiplient entre les journalistes d'Europe 1 désormais en compétition pour le titre de chroniqueur du jour. Il suffit de les interroger pour réaliser à quel point ils se détestent. Jérôme Lacroix, un mot sympa pour vos collègues?
Quasiment tous sont inutiles.
CQFD, une soif de la gagne qui ne surprend pas notre invité du jour, ce nageur hors norme, double champion du monde et olympique qu'on surnommait le Squall. Pourquoi le Squall, Yannick Agnel? Est-ce que c'est vous qui l'avez trouvé ce surnom ou on l'a trouvé pour vous?
Non, c'est moi qui l'ai trouvé.
Ah, bien joué.
Et je vais vous raconter le truc. Ouais. Effectivement, j'en ai parlé il y a quelques jours d'ailleurs. C'était une époque où Wikipédia commençait à peu près et où on s'amusait à se googliser, donc notamment avec Camille, les nageurs de Nice, etc. Et donc, on avait trouvé notre fiche Wikipédia qui était extrêmement sommaire à l'époque. Et on s'était dit, allez. Viens, on se marre, on modifie un peu le truc.
Ah, c'est bon.
Et donc en fait, on avait modifié chacun les pages des autres.
D'accord.
Donc, on avait mis tout un tas de conneries mais immenses, si tu veux, sur la totalité des pages et resté le truc du squal. Et donc après, ça a été les médias s'en sont emparés, les journalistes s'en sont emparés et j'ai rien dit parce que je trouvais ça plutôt cool. Je me dis bon, allez, un petit surnom, ça sonne bien.
C'est génial comme histoire ça. Et ben vous le saviez qu'on s'était fait bluffer?
Non, je savais pas.
Que c'était une blague entre eux.
Et en fait,
ils mettent vous savez sur Wikipédia, je crois qu'ils du coup ils développent, ils disent il dit le squal pour son goût de la compétition, pour son côté tueur.
Et en fait, il ne fait pas 2m5, Yannick Agnel, il n'est pas passé par Nice.
Ah non, ça je vous confirme qu'il est grand. Mais le squal a un cœur. J'ai lu que vous étiez le parrain de l'opération Viens, on nage. Ça, ce n'est pas une connerie, hein, créée par Sophie Camoun. Objectif, permettre à des enfants défavorisés de se familiariser avec l'eau et de s'initier à la natation. Ça, c'est une sacrée bonne idée.
Oui, c'est chouette. C'est chouette et ça nous permet de... comment dire, de rendre un petit peu ce qu'on nous a donné. En fait, c'est parti de la genèse du projet, de l'opération, elle est assez simple. C'était donc Sophie Camoun qui était sûrement à la plage en train de lire un magazine. Et puis là, elle voit qu'en fait, la noyade, c'est la première cause de mortalité dans les accidents courants chez les moins de 25 ans. Et qu'il y a à peu près un gamin sur deux qui rentre au collège qui ne sait pas nager. Et là, on s'est dit, en tant qu'ancien nageur, nageuse de haut niveau, c'était pas possible qu'on reste sans rien faire. Donc voilà, on a mis des champions à contribution. Et pour l'instant, on a fait deux villes. Il y en aura une troisième d'ici la fin de l'année où on va dans des zones un peu sensibles avec des gens qui n'ont pas forcément des budgets ou qui sont situés un peu loin de piscines municipales, qui n'ont pas forcément les structures, etc., pour leur apprendre à nager.
Une bien belle initiative. Et en dehors des bassins, vous êtes aussi actif, puisqu'on l'a dit, vous êtes directeur sportif d'une équipe de joueurs de jeux vidéo. Vous jouez vous-même aux jeux vidéo, c'est comme ça que vous avez fait le pont entre les deux disciplines. Vous êtes un bon joueur de FIFA, par exemple ?
FIFA, non, pas particulièrement. Non, d'autres jeux vidéo. Cela dit, effectivement, quand à l'époque je nageais, je m'entraînais même 6 à 8 heures par jour, quand vous rentrez chez vous, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de vous affaler comme une loque sur le canapé, pardon. Je vais y arriver. Et donc, le seul truc qui est à côté, c'est la manette. Et donc, le lien est assez rapide.
Alors, vous aimez les jeux vidéo, mais est-ce que vous passez aussi beaucoup de temps devant la télé ?
Oui.
Vous êtes un gros consommateur ?
Pas mal. Plus de... Alors, télévision, pas forcément. Plus films, séries, etc.
Alors justement, selon une étude d'Oxford, on perd désormais en moyenne 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran de Netflix, d'OCS, toutes ces plateformes qui nous proposent tant de choses. On ne sait plus par où commencer. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagner. Eva Rock, vous nous guidez dans cette jungle.
Oui, alors Yannick Agnel, c'est vrai qu'on demande beaucoup, beaucoup aux sportifs aujourd'hui, notamment en termes de communication. On leur demande par exemple de savoir parler en public et c'est pas forcément évident
pour tous. De ce côté-là, Yannick
n'a
pas trop de problèmes. Hein.
Non, mais c'est aussi pour ça. Il se crache dessus.
En revanche, il est pas très propre. Il s'exprime très bien, c'est un garçon qui s'exprime bien, mais qui n'est pas très, très coordonné dans ses gestes.
Non, hein, l'eau lui manquait. Voilà. Une heure et demie qui est avec nous, il fallait un peu d'eau.
Ça me manquait.
Non, mais c'est vrai, c'est une exception en termes de communication. Tous les sportifs ne savent pas aussi bien s'adresser à un public comme vous avez pu le faire au cours de votre carrière, on est d'accord.
Je pense qu'il y a même plus que ça. Ça fait quelques mois que je réfléchis au fait de pourquoi pas créer une sorte d'institution qui délivrerait un vrai diplôme de sportif de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez bien dit, il y a l'aspect communication, réseaux sociaux, médias, training, etc. Mais être sportif de haut niveau, c'est un job à part entière. Je pense que ce serait pas mal de pouvoir distribuer des cours, par exemple, de gestion de patrimoine.
Oui.
Pourquoi pas d'équivalence sur certains diplômes, de nutrition, de pratiques physiques, etc. Donc, je pense que c'est un job à part entière et on n'en prend pas assez soin, on n'en prend pas assez la mesure. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire à ce sujet.
Vous pourriez le lancer, ça, vous ?
Oui, pourquoi pas.
Mais il vient de le lancer sur Europe 1, c'est une exclue, Anne, merci de le souligner.
Oui, pourquoi pas, mais il faudrait le faire avec l'aide d'investisseurs, des institutions surtout.
Attendez, j'appelle Arnaud Lagardère. Cher Arnaud, je suis avec Yannick Agnel.
Et il est très sensible au sport
idée.
En plus.
Mais c'est vrai, exactement.
Tout à fait.
Ouais.
On va en parler. Ouais. Alors, on revient justement sur la notion de savoir parler en public et la notion de langage. En 2016, sortait au cinéma la version longue d'un documentaire remarquable de Stéphane de Freitas et Ladi Djili, à voix haute, c'est la Force de la parole, c'est le titre de ce documentaire. Le film, en fait, va suivre des étudiants de l'université de Saint-Denis qui, pendant de longs mois, se préparent à un concours d'éloquence, Eloquentia extrait.
Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, c'était plus à base de « Ouais, je ma gueule, nique ta mère » et tout. Ça passait mieux qu'un « Ouais, je voudrais dire que par ma pensée... » j'avais beaucoup d'admiration pour ces grands orateurs, pour ces politiciens, plutôt. Même Sarkozy, j'admirais beaucoup quand il se mettait là, de sa petite taille, avec ses talonnettes et tout, il se mettait là. Ouais, je veux réformer le parti. Je veux une France unie, soudée. Je veux une France libre. Et là, je me disais, mais putain, je te crois pas, mec, mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que tu m'emportes ?
Alors, ce film, c'est un condensé de bonheur et d'humanité quand la rhétorique devient aussi une ouverture au monde et une façon de s'affirmer.
C'est bien d'écrire, mais parler, c'est mieux. Parce que quand tu parles et que les gens t'écoutent et que les gens te regardent, t'as l'impression que tu peux tout faire. Tu peux conquérir le monde. Et c'est pour ça que je suis là en fait. C'est parce que ça peut changer ma vie.
ça peut changer une vie. Alors, il n'y a pas d'angélisme dans ce documentaire, mais des joutes verbales arbitrées notamment par l'avocat Bertrand Perrier qui sont absolument délicieuses, à la fois drôles et émouvantes. Elles prouvent surtout que le verbe peut être un moyen de franchir des barrières sociales. Et puis, voir ces étudiants se métamorphoser au gré des semaines et au gré des mots est totalement réjouissant. Ça s'appelle la voix haute, la force de la parole.
Et voilà, que demande le PEP ? 17 minutes de gagner. Merci Eva Rock. Europe 1. À suivre dans l'équipe et sauvage, nous prendrons la direction du Japon. Fascinant pays du soleil levant, bref, comme d'habitude, où démarre la Coupe du Monde de rugby. Sur fond de polémique, beaucoup de joueurs portent des tatouages. Or, les tatouages au Japon, c'est très mal vu. Jérôme Lacroix, lui-même tatoué, nous dira pourquoi.
J'ai un tatouage qui se déplie.
Oui, non.
Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait?
Non, pendant la pub, à tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue, 2 heures d'une lutte sans pitié entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui s'écharpent au service de votre culture G. Un seul sera élu chroniqueur du jour, celui dont le sujet vous aura le plus intrigué. 2 heures aussi pour mieux connaître un invité vedette, comme hier, le jeune prodige du théâtre Alexis Michalik, qui s'est confié comme rarement. Il a dit beaucoup de choses à Eva Rock. Bon, visiblement, elle n'a pas tout compris, mais vous, peut-être oui. Eva Rock présente les grands entretiens.
Vous vous ennuyez parfois ou pas ?
Oui, bah, c'est justement l'ennui qui motive l'écriture, parce que quand je m'ennuie, l'imagination revient, et donc du coup j'essaye absolument de m'ennuyer, je vais beaucoup en vacances.
Et ça marche jamais en fait ?
Bah si, ça marche très bien.
Oui, mais donc l'ennui n'existe pas en fait.
Ouais.
T'as pas tout compris ma grande.
Mais si, j'avais raison.
Aujourd'hui, elle maintient qu'elle avait raison face à Alexis Michalik, l'homme aux 17 Molières. Aujourd'hui, c'est une légende de la natation française qui nous accompagne. Il dirige désormais une équipe de e-sport. Yannick Agnel passe l'après-midi sur Europe 1. Yannick, c'est un sport que vous aimez regarder, le rugby ?
Oui, dans les compétitions internationales, surtout.
Oui, comme moi, le foot. Quoi.
Voilà.
Dans quel sport vous auriez pu briller ? 2m2, j'essaie d'imaginer. Le basket ? Le handball, peut-être ?
Le volley ?
J'ai essayé.
Le
volley. J'ai essayé tout ça. Le problème, c'est que ça se joue sur terre. ça a toujours été mon gros problème.
C'était le seul. Il faudrait vraiment que ça... si le basket se jouait dans l'eau, vous seriez le meilleur.
Ouais, c'est pas grave.
Justement, voici un autre athlète de très haut niveau. 1m73, les choses du 38. Mais dans les vestiaires, il trouve toujours les mots, les citations fortes pour motiver ses coéquipiers. Nietzsche, Platon, Pascal.
Tempête en novembre, t'en chies en janvier.
Pascal, le grand frère, là en l'occurrence. Jérôme Lacroix, ce matin, vous nous parlez de la Coupe du Monde de rugby qui démarre au Japon.
Avec une polémique. Moi, cet après-midi, j'ai envie de sentir, vous tous, j'ai envie de sentir votre côté tribal. Oui, parce que nous recevons Yannick Agnel, double champion olympique dont le corps a été l'outil de travail, que dis-je, une machine de guerre. Oui, parce que quand on fait du sport au plus haut niveau, le rapport avec le corps, il est presque tribal et ça trouve un prolongement extérieur bien souvent. Avec les tatouages, vous serez d'accord, les corps de certains sportifs sont des fresques carrément dans tous les sports, notamment dans le rugby, beaucoup de joueurs tatoués, notamment les représentants de l'hémisphère sud. Le rugby dans la grand-messe démarre demain, la Coupe du Monde, c'est au Japon, vous l'avez dit. Et bien savez-vous, effectivement, Japon plus tatouage égale problème. Au Japon, il est demandé aux joueurs de rugby qui sont actuellement au Mondial, ceux qui sont tatoués, de bien vouloir les cacher. Alors stop, je vous vois venir. Non, on ne verra pas de rugbyman sur le terrain en col roulé, manches longues et cuissardes. C'est toléré pendant les matchs et même les entraînements. Seulement voilà, dans de nombreux endroits de l'espace public japonais, ouais, la Fédération internationale de rugby a expressément demandé aux joueurs de cacher leurs tatouages.
Mais pourquoi ? C'est quoi le problème avec les tatouages au Japon ?
Alors, c'est très mal vu dans l'archipel. Il faut remonter au temps très ancien. Les tatoués, c'était les criminels. Si vous êtes avec nous sur europe1.fr, on les tatouait, on les marquait, une croix, un point, une barre, sur un bras, une cuisse ou au milieu du front. Et puis, au XVIIe siècle, le tatouage devient décoratif populaire, porté notamment par des estampes Dokusai et sa célèbre grande vague. Alors il est de nouveau banni au 19e siècle, et puis interdiction levée en 1948 par les forces américaines après la Seconde Guerre mondiale. Mais pendant 50 ans, le tatouage, il a alors vécu dans la clandestinité. C'était interdit juste avant et il est devenu l'apanage des yakuza, la pègre, la mafia. Pour le crime organisé japonais, c'est symbole de courage, reconnaissance, puissance. Mais les tatouages, ils terrorisent quasiment la population. Et au-delà des yakuza, certains japonais voient le tatouage comme une dégradation pour le corps qui a un côté sacré pour eux. Alors la Fédération internationale de rugby demande aux joueurs de bien vouloir respecter ça. Et s'ils veulent aller, par exemple, dans les onsen, vous savez, ces bains d'eau chaude, il faudra qu'ils couvrent leur tatouage et puis c'est tout.
Et ce message, comment il passe auprès des joueurs ?
Parfaitement bien. Et pourtant, quel choc des cultures, l'hostilité des japonais contre l'opulence atouesque, si je puis dire, ça n'existe pas, mais enfin, l'opulence des Polynésiens.
Mais vous pouvez inventer des mots, si vous voulez.
Voilà, les Maoris, leurs plantes spirales, leurs oiseaux, leurs symboles marins, pour qui c'est un art ancestral et sacré, hein, le tatouage. Le néo-zélandais Sonny Bill Williams, il en est sans doute l'un des plus beaux représentants de ces tatouages. Il a accepté humblement de les cacher.
Un beau représentant de la musculation. Écoutez, aussi, visiblement.
Il a accepté humblement.
Sur Europe1.fr.
Il a accepté humblement de cacher ses tatouages par respect pour le Japon. C'est vrai que c'est pas banal, c'est ce qu'il raconte, de vous raconter que dans la première salle où nous sommes allés pour nous entraîner, on a dû intégralement se couvrir, c'est ce qu'il raconte, avec des manches longues. Mais voilà, ici c'est comme ça, nous respectons les valeurs. Alors la Fédération Internationale compte sur les efforts des joueurs, mais elle a aussi négocié avec les Japonais pour tenter d'infléchir leur position. Et ça a en partie fonctionné. L'île de Kyushu, par exemple, au sud-ouest, va fournir aux délégations internationales une carte de la centaine de bains accessibles aux personnes tatouées. Certaines chaînes d'hôtels sont OK pour des horaires tattoo friendly pour l'accès aux bains et aux piscines, voilà, à certaines heures. D'autres établissements distribueront des stickers pour cacher les tatouages. Alors on espère pour eux que les motifs ne seront pas ridicules, parce que sinon, voilà. Alors on parle des joueurs, mais ce sera pareil aussi pour les supporters lambda, hein, qui arriveront tatoués, ils devront les cacher. Mais il faut quand même préciser qu'il y a tout de même une tolérance des autorités.
Mais attendez, Jérôme Lacroix, là, les mecs, là, les rugbymen, ils sont là pour gagner, ils ne sont pas là pour aller dans des ronds de Seine, se la couler douce.
Ah oui, mais la
Coupe
du monde de rugby, ça dure deux mois quasiment. Hein, donc,
oui,
ouais, parfois, il y a des longues périodes entre chaque match de chaque sélection, donc c'est aussi important. Hein.
Merci Jérôme Lacroix, beau sujet, mais vous n'y couperez pas. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Anne Le Gall. Vous y connaissez en tatouage, en rugby ?
Oui, non, mais je note son érudition, surtout les références Yakuza, l'époque médiévale, tout ça. Alors, mais moi, j'ai une question très pointue. Est-ce que vous savez quel est le motif de tatouage le plus prisé chez les people ?
Chez les people ? Mais là, on parle de sportifs de haut niveau, là. On n'est pas dans ce côté people. Je dirais un petit lapin.
Le monde des bisounours de Jérôme Lacroix.
Je pensais au petit lapin de Playboy, vous savez.
Ah, là, je me retrouve, j'ai eu peur l'espace d'un instant.
C'est bien tenté, mais c'est perdu. C'est l'étoile, comme Kate Moss ou David Beckham. Ensuite vient le crâne, comme chez Johnny Depp. Et ensuite la fleur. Et là, j'ai lu que Sylvester Stallone avait une fleur. Oh,
décidément, quel cœur sensible, ce Sylvester. Yannick Agnel, vous n'avez pas de tatouage ?
Non, zéro.
Mais c'est vous avez déjà rares, connu ce problème au Japon avec des amis sportifs ?
Oui. Oui, ça nous est arrivé pas mal de fois. Et effectivement, sur certains onsen, certains aux hôtels dans lesquels on restait, il fallait qu'on y aille, parce que certains de nos amis avaient vraiment des gros tatouages, donc impossible de les cacher avec des sparadraps ou quoi que ce soit. Il fallait qu'on y aille après 21h30, 22h. Je pense que c'était même 22h.
Comme quoi, vous aussi, vous la couliez douce à l'époque, hein, ces compétitions. Hein, on pense que c'est dur, mais ils étaient dans les onsen, tranquillou, bilou. Et je pense à quelque chose vous concernant, Yannick Agnel. Il me semble, alors ça c'est de mémoire, hein, donc je peux me tromper, mais il me semble qu'à l'époque de la polémique sur les combis intégrés en natation, vous faisiez partie de ceux qui n'avaient pas de combi intégral, vous étiez toujours en slip.
Oui, c'est absolument.
Pourquoi cette passion du slip, Yannick ?
Oh, ça vient de très loin, dans ma plus tendre enfance.
Non, vous nagez mieux sans ça ? Vous nagiez mieux, la combinaison, vous n'avez jamais vu trop longtemps ?
Non, c'était pas ça. Non. À l'époque où se posait la question de la combinaison, on était donc en 2009, ouais. J'avais 15 ans, 16 ans, et je considérais à ce moment-là que j'avais une marge de progression suffisante et que j'avais pas besoin de revêtir la combinaison, le neck plus ultra, etc. Et puis surtout, il y a un truc qui me gonflait allègrement, c'était que pour moi, ça ressemblait quand même pas mal à du dopage technologique, et que c'était la course à qui allait choper la combinaison sur les gradins, etc., pour la modique somme de 400 ou 500 euros, pour une utilisation unique et où on se défonçait les doigts en essayant de la mettre pendant à peu près 30 minutes. Donc ça ne m'intéressait pas tellement de participer à tout ce cirque-là, effectivement.
Et ça a été interdit d'ailleurs après ces combinaisons.
Oui, après 2009, après des championnats du monde à Rome où j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est de l'ordre de sur un peu plus d'une quarantaine de courses, il y a eu 41 ou 43 records du monde battus.
Ah oui, d'accord.
Donc voilà un peu la supercherie.
Je vois. Double champion du monde, double champion olympique, toujours en slip. À part les Maroc qui avait soi-disant battu Marie-Josée Pérec un jour, on n'avait pas vu un sportif de haut niveau en vrai de notre vie. On est ravis de passer l'après-midi avec Yannick Agnel. Europe 1. Vous avez été marqué enfant par la cruauté de la scène de course de chars dans Bénure. Vous allez adorer l'équipée sauvage. Deux heures de course-poursuite sans rambarde de sécurité entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui, en véritable gladiateur moderne, s'affrontent au service de votre culture G. Heureusement, on va souffler un peu avec une des chroniques les plus utiles de cette émission, Délice in Extremis, votre recette express de dernière minute si, une fois de plus, vous avez oublié de faire les courses. Notre expert gastronomique Olivier Pouls vous propose aujourd'hui un plat avec une herbe qu'il affectionne particulièrement. Laquelle ? La législation actuelle m'empêche de le dire.
Je sais que vous aimez ça et vous me faites plaisir parce que... c'est mon herbe préférée.
Ouais, mais là, à tout de suite, Olivier, à tout de suite. Il arrive là, tiens.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue deux heures d'une compétition sans merci entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 que j'ai d'habitude un peu de mal à tenir. La discipline, c'est pas leur fort. Heureusement, aujourd'hui, c'est notre invité qui les gère et je peux vous dire qu'avec Yannick Agnel, double champion olympique, ça file droit.
Je suis votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera « Chef, ta punaise, est-ce que c'est bien clair ?»«
Chef, oui, chef !»«
Mon cul, je n'entends rien, montrez-moi que vous en avez une paire !»«
Chef, oui, chef !»
Ah, on la ramène moins dans l'équipe maintenant. Yannick Agnel, on a évoqué votre glorieux passé de nageur, deux titres de champion du monde, deux médailles d'or olympiques et un record qui tient toujours celui du 400 mètres nage libre en petit bassin. Il est pané celui qui vous le piquera, celui-là ?
Il va falloir se lever tôt, je pense.
Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Comment vous avez fait pour... vous étiez dans une forme incroyable.
C'était à la suite des Jeux Olympiques, donc on était dans une certaine lancée.
Ouais, c'était au top physiquement.
Ouais, au top physiquement, mentalement, on était bien. J'avais pris mon petit McDo avant, donc très bien.
Ouais, ah, c'est vrai, ouais, ça vraiment. C'est véridique.
Ah oui, c'est véridique. Et je sais pas, c'était une compétition comme on en rêve, quoi. Toutes les planètes sont alignées, tout se passe bien. Et puis là, on se lève le matin, on se dit... c'est peut-être jouable.
Dans le roman jeunesse que vous avez publié et co-écrit, qui s'appelle Yann, où c'est votre vie un petit peu romancée, vous racontez des sensations que vous avez quand vous plongez dans le bassin. Vous dites que l'eau parfois est gentille, parfois c'est comme dans du beurre, parfois c'est comme dans des barbelés. Racontez-nous ça, qu'est-ce que vous ressentiez pour... enfin, c'est une relation très particulière que vous avez à l'eau.
Oui, je trouve que même la relation du nageur à la natation en général est assez particulière. C'est un des seuls sports où on est vraiment on est un peu tout seul au fond de l'eau. Et puis il y a un petit monologue, une certaine même conversation qui s'installe sur la forme physique, la sensation, etc. Les seules rares fois où on sort un petit peu la tête de l'eau entre les séries pendant les entraînements, c'est pour balancer 2-3 blagues et puis après on est reparti, quoi.
Une question que je me posais depuis longtemps, dans l'eau, quand on fait une... alors pas forcément une compétition, mais disons à l'entraînement, quand on fait plein de longueurs, est-ce que vous avez le temps de penser à autre chose ou est-ce que vous êtes focalisé sur, je sais pas, le rythme, la cadence ou est-ce que parfois vous pensez à votre liste de courses ou à la fille que vous avez rencontrée ou...
alors,
ce genre de choses.
Idéalement.
Dites-nous la vérité, sur ce 400 mètres-là, vous pensez à qui ?
Non, alors, c'est un truc, une question qu'on nous pose assez souvent, mais même pas que aux nageurs, c'est la fameuse question des journalistes. Vous avez pensé à quoi pendant votre course ?
Merci de m'imiter comme
non,
ça.
Mais c'est. Alors, il y a une réalité, j'aimerais qu'on arrête de poser cette question. Est-ce qu'on pose à un pianiste la question à quoi vous avez pensé pendant votre concert ?
C'est vrai, on pense au...
Personne le fait, mais là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que nous on récite nos gammes à l'entraînement, etc. Puis après, une fois qu'on arrive sur la scène, on pense à rien, on ressent en fait, on donne, il y a une sorte de communion, quelque chose d'assez quasi méditatif.
Des bassins aux jeux vidéo, il est désormais coach d'une équipe de e-sport, la légende de la natation française Yannick Agnel est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipée sauvage, Yannick, pour préparer les JO à Londres, vous aviez mis votre corps à rude épreuve. Vous l'aviez poussé à la limite, musculation, longueur, fractionné. Vous pensiez connaître ce que le corps peut endurer de pire, mais non, car le corps peut endurer...
une petite tournante de pâté. Ouais, mais pas dans le verre de rouge.
Une tournante de pâté, mais attention, pas dans le verre de rouge. Votre estomac sera-t-il aussi solide que vos muscles ? Olivier Pouls, notre expert en gastronomie de crise, arrive pour vous sauver la mise avec une recette de dernière minute au cas où vous auriez oublié de faire les courses.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
L'équipée sauvage continue et c'est la rencontre au sommet que beaucoup attendaient. Deux athlètes, deux champions, Yannick Agnel, double champion du monde de natation, et Olivier Pouls, le belge volant, double champion du monde. Hein, vous attendez une vanne sur la bouffe, mais non. Double champion du monde dans une discipline moins connue mais exigeante, l'onanisme récréatif.
La délicatesse d'une main, c'est irremplaçable.
Olivier Vous avez décidément tous les talents, mais vous êtes aussi très fort en cuisine. On le rappelle, c'est pour ça que vous êtes là. Chaque après-midi, vers 6h moins le quart, alors qu'on a complètement oublié de réfléchir à une recette pour le soir, il vole à notre secours. Voici Délices in Extremis. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Olivier? J'espère que vous êtes lavé les mains.
Bah, tout d'abord, je voudrais vous dire que moi aussi, comme Yannick Agnel, j'ai un rapport particulier à l'eau.
Vous avez un rapport allergique, on peut le dire.
Exactement. Mais moi, l'eau, c'est usage externe.
Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir, Olivier? Vous avez pensé
à
une recette?
On a parlé de coriandre hier, et je voudrais savoir, autour de cette table, qui déteste la coriandre? Statistiquement, il y a au moins une personne.
Moi, je déteste tout.
Et donc, Eva fait partie des 20% de gens qui sont dotés du gène 0R642. Qu'est-ce que ce gène?
Pour une fois que j'ai un truc.
C'est un gène qui... c'est un gène qui vous rend hypersensible. Alors, pas hyper intelligent, hein, mais hypersensible aux aldéhydes. Et les aldéhydes, ce sont des molécules que l'on retrouve dans la coriandre, dans certains fromages, que vous détestez aussi, et dans le savon. Et en fait, quand
c'est
vous mangez ces aliments...
Jamais.
Et quand vous mangez ces aliments, vous avez l'impression de manger du savon. Donc les gens qui n'aiment pas la coriandre, c'est génétique, il n'y a rien à faire, ils ne l'aimeront jamais, pas la peine de punir vos enfants.
On les embrasse quand même, ils sont 20% d'auditeurs en moins.
Mais pour les 80% qui restent, on adore ça, moi j'adore ça, je peux manger des poignées entières. Et qu'est-ce qu'on fait avec de la coriandre?
Vois bien manger des poignées de coriandre.
On fait par exemple du guacamole ou on fait des ceviche.
Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir?
Du ceviche par exemple. Est-ce que c'est que le ceviche? C'est un
poisson
peu
cru.
Le tartare d'Amérique du Sud. On en mange au Mexique, on en mange au Chili. Donc l'idée, c'est de prendre des morceaux de poisson cru. On peut choisir à peu près ce qu'on veut. Des crevettes, on peut prendre du saumon, on peut prendre du cabillaud, on peut prendre de la dorade. Petit conseil, passez votre poisson par le congélateur avant pour enlever les petites bactéries qui pourraient s'y trouver. Ensuite, vous le détaillez en morceaux. Il vous faut du citron vert, beaucoup de citron vert, parce que la cuisson du poisson va se faire par le jus du citron. Vous allez rajouter des piments pour donner un petit peu de tonus. Des oignons rouges, simplement à émincer. On peut éventuellement rajouter quelques dés de tomates et puis surtout beaucoup de coriandre. Et vous faites cette préparation une bonne heure avant de passer à table, de manière justement à ce que le poisson ait le temps de cuire. Et puis tous ces aliments vont se mêler ensemble. Vous aurez plein de coriandre dans la bouche. Ce sera délicieux. Très facile à faire.
Rendez-vous samedi soir à la maison.
Mais volontiers, Mathieu.
Ouais, mais sans coriandre alors.
Non, mais j'amène mon petit plat, c'est pas grave. Comme d'habitude.
Comme d'habitude. À chaque fois, on fait un truc avec du fromage avec Olivier, on oublie que vous n'en mangez pas. Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Yannick Agnel, vous restez avec nous.
Europe 1.
C'est comme une remise de médaille au JO, sauf que les athlètes ne savent pas s'ils vont monter sur le podium ou pas, ni dans quel ordre. Certains, clairement, ont du mal à gérer la pression.
Bah, je file aux toilettes.
C'est comme Jérôme Lacroix.
Oh,
qui sera élu dans quelques instants chroniqueur du jour, sous l'œil vigilant de notre coach du jour, Yannick Agnel, qui leur a demandé de se mettre en rang pour inspection.
Ta punaise, est-ce que c'est clair?
Chef, oui, chef!
Mon cul, je n'entends rien.
Doucement!
Chef, oui,
chef! 16h, 18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Pour que vous vous couchiez moins bête, ils se sont battus comme des chiffonniers. Ils se sont surpassés, ils ont tout donné. Quatre journalistes de la rédaction d'Europe 1 qui, à l'heure du vote, sont un peu comme Yannick Agnel, notre invité, dans la dernière ligne droite du 200 mètres des JO de Londres. La vitesse, l'agilité, la technique et les muscles en moins. Ils se disent qu'ils seraient cons d'échouer si près du but. Et pourtant, un seul sera élu chroniqueur du jour. Découvrons d'abord Eva, le vote du public.
Elle est redoutable. Non, je ne soupire pas, mais c'est parce qu'elle est redoutable. C'est Anne qui remporte deux points du public.
Merci.
35% des votants pour elle avec les taxis volants.
Anne qui n'est plus qu'à un demi-point d'Evroger. Elle est deuxième du championnat européen.
Je vais rattraper ma chef de service, mon ancien chef de service.
Pour ma part, je donne mon point. Je ne peux hélas... J'ai adoré votre chronique, mon cher Jérôme Lacroix, mais je ne peux pas vous donner le point parce qu'il a parlé de notre maître à tous ceux qui écrivent et qui aimeraient écrire en tout cas, Joseph Campbell. Je donne mon point. Car je n'ai qu'un point, d'ailleurs c'est assez injuste, je ne sais pas pourquoi c'est moi qui ai décidé des règles du jeu, j'aurais pu m'en donner 6. C'est un point que je donne à Nicolas Caro. Bravo.
Merci.
Nicolas, mais le moment est venu pour notre invité d'honneur Yannick Agnel de nous dire quel sujet il a préféré. Attention, votre voix compte triple, réfléchissez bien, qui selon vous Yannick mérite d'être élu chroniqueur du jeu?
Moi je veux bien le classement avant.
Vous voulez que je vous donne le classement?
Alors
actuellement, Nicolas Caro vient d'avoir un point en plus, il est donc Nicolas Caro est cinquième de notre classement. Anne Le Gall est donc deuxième, c'est-à-dire que c'est la première parmi ceux qui sont présents aujourd'hui. Jérôme Lacroix, vous êtes situé où dans le classement, Jérôme? Vous êtes troisième du classement, Jérôme. Vous avez déjà beaucoup de points. Est-ce nécessaire de vous en donner?
Angèle,
rappelons qu'Angèle a zéro point. En revanche, Angèle, elle était un peu loin.
Elle
est venue moins souvent aussi. Ouais. Alors, c'est vous qui tranchez le sujet qui vous aura le plus intéressé aujourd'hui.
Bon, mais je vais donner les points à Angèle.
Oh, Yannick Agnel est tellement gentil. Nicolas Caro quitte le studio. Nicolas Caro quitte le studio. C'est le premier clash buzz de l'année. Il a claqué la porte et oui, il n'a même pas salué notre invité. Alors, c'est donc Angèle qui remporte la compétition
et
aujourd'hui avec son sujet.
Même service.
C'est vrai.
Nicolas et Angèle.
On rappelle le sujet d'Angèle, c'était sur l'influence des jeux vidéo
et la musique.
Et dans la musique contemporaine. Et donc, c'est Angèle Châtelier qui remporte la compétition. On embrasse, on remercie chaudement Yannick Agnel qui a été notre invité aujourd'hui. Merci d'avoir joué le jeu.
Merci à vous.
Pendant ces deux heures, Yannick. On peut rappeler son palmarès déjà.
Vous vous souvenez du palmarès ?
Deux fois champion
du monde et deux fois champion olympique. C'est
ça ? Recordman du monde du 400.
Et c'est pas prêt d'être battu, voilà, en petit bassin. Et puis vous êtes aujourd'hui directeur sportif de l'équipe MCES de e-sport. Et on peut vous retrouver dans les librairies chez Hachette Roman. Vous avez publié au mois de juin avec Pascal Rutter un roman jeunesse qui s'appelle Yann et que je recommande chaudement.
Un grand merci à vous, Yannick Agnel, et un grand merci à toute l'équipe de l'équipe Sauvage. Eva Rock, Anne Le Gall, Angèle Châtelier, Nicolas Caro, l'équipe Sauvage revient demain 16h et en podcast à n'importe quel moment sur Europe1.fr.
Et oui, à demain Mathieu Noël, c'était les meilleurs moments de l'équipe Sauvage. De retour donc dès 16h demain sur Europe 1. Belle soirée tout de suite, c'est votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Géraldine.
Europe 1, 18h-20h,
votre grand journal du soir,
Sébastien Krebs.